9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Il était une fois un secrétaire général de l'ONU qui prenait son rôle au sérieux, qui tenait tête aux chefs d'État, y compris aux grandes puissances, qui tentait d'imposer la paix, y compris en faisant la guerre. Un secrétaire général plus général que secrétaire, disait-on. Mais alors qu'il se rendait auprès d'un chef rebelle, il a subitement trouvé la mort. Son avion s'est écrasé. Accident ou attentat, l'événement est en tout cas considérable. Et ce que je viens de vous résumer est une histoire vraie. L'histoire du deuxième secrétaire général de l'ONU, le Suédois Dag Hammarskjöld, alias Monsieur H, élu en 53, mort au Katanga, au Congo, le 18 septembre 61. Bonjour Morin Picard.
Bonjour.
Journaliste basé à New York, donc auprès de l'ONU, vous nous livrez une enquête foisonnante, palpitante, incroyablement documentée. Vous avez consulté des milliers d'archives sur une histoire complètement oubliée aujourd'hui, mais qui reste, on peut le dire, l'une des grandes énigmes de l'après-guerre.
Oui, on la voyait comme telle à l'époque. Elle a peut-être un peu disparu parce que 2 ans plus tard, le président des États-Unis a été assassiné à son tour, John Fitzgerald Kennedy. La seule différence, c'est qu'à l'époque, en ce qui concerne Dag Hammarskjöld, on parle d'un accident.
On parle d'un accident. Le doute, on va l'entendre, le doute quand même effleure les médias de l'époque. Énigme, ai-je dit, plus tout à fait, parce que la réponse est dans le titre de votre livre. Ils ont tué Monsieur H. Congo 61, le complot des mercenaires français contre l'ONU. On verra qu'il n'y a pas que des Français, mais je disais, événement considérable. En voici la trace dans les archives d'Europe 1.
On est toujours sans nouvelles de M. Hammarskjöld. Il se trouve en effet que l'avion de M. Hammarskjöld n'a atterri sur aucun aérodrome connu, qu'il est donc porté disparu et qu'il convient de le rechercher, ce que fait l'armée de l'air rhodésienne.
Accident mécanique ? Erreur de pilotage, attaque aérienne, tir de DCA, sabotage, l'enquête le dira un jour. Elle dira aussi pourquoi depuis minuit 10, on est resté sans nouvelles de Dag Hammarskjöld.
Il est 16h, voici Europe Flash par Jean-Claude Degey.
Monsieur Hammarskjöld est mort.
C'est une certitude. Monsieur H est tombé à 10 km de l'aéroport où Monsieur Tchombe, le chef du Katanga, l'attendait.
Il aura fallu près de 15 heures pour le savoir. Quel est donc l'homme que Washington porte au pinacle, que Paris salue du bout des lèvres et à propos duquel Moscou insiste pour séparer l'individu de son action?
Dag Hammarskjöld, Suédois, célibataire, 56 ans, haut fonctionnaire, fils de Premier ministre, aime l'alpinisme, la peinture abstraite et les poètes modernes français qu'il traduit en suédois.
L'Est et l'Ouest s'étaient accordés sur son nom en 1953, puis en 1957, pour en faire le secrétaire général des Nations Unies. Dag Hammarskjöld a fait de sa fonction de secrétaire général un poste de chef d'un gouvernement supranational obéissant à sa majorité. Son rôle, il l'a défini lui-même.
Ma position est bien simple. Chaque décision du Conseil de sécurité, comme chaque décision de l'Assemblée générale, c'est la loi pour le secrétaire général.
New York, septembre 1960. Khrouchtchev vient à l'ONU, il n'a plus confiance dans Hammarskjöld, il se déchaîne et frappe sur son bureau. Hammarskjöld refuse de démissionner comme le lui demande Khrouchtchev. Hammarskjöld refuse de laisser sa place à 3 secrétaires généraux. Les Africains, les Asiatiques le soutiennent, comme ils le soutiendront à Bizerte.
Extrait d'un disque Sonorama de 1961 avec les archives d'Europe numéro 1, qui dessine bien, Morin Picard, la forte personnalité et le caractère encombrant de M. H, c'est-à-dire grande aura auprès des peuples décolonisés ou en voie d'accéder à l'indépendance et grande détestation de toutes les puissances coloniales.
Oui, il a réussi à se mettre à dos en premier lieu Londres et Paris, qu'il avait pourtant soutenu, qui avait même proposé son nom initialement pour la nomination au poste de secrétaire général.
À cause de Suez.
Exactement.
Son intervention sur l'expédition de Suez.
Il intervient en première ligne, physiquement, il va chercher le cessez-le-feu avec le président Nasser et il concentre sur lui le feu des critiques de Londres et Paris qui ne lui pardonneront jamais.
C'est dans ce contexte que survient la crise congolaise, l'indépendance brutale du Congo belge, processus mal préparé, qui débouche sur la sécession du Katanga, la très riche province minière du pays, 10% des ressources mondiales de cuivre, et sur une énorme opération de maintien de la paix. Hein.
C'est la première grande opération, c'est une révolution pour l'ONU. 16 000 hommes arrivent en quelques jours au Congo, venus des quatre coins du monde. L'ONU n'a jamais fait ça avant, et c'est Dag Hammarskjöld qui réussit à accomplir cet exploit en quelques jours.
16 000 hommes donc pour éviter le le morcellement du Congo et qui font la guerre hein, à Elisabethville, la capitale du Katanga qui est devenue depuis Lumumbashi. Hein.
Oui, tout à fait. Le maintien de la paix est encore un concept expérimental. Les soldats indiens, suédois, irlandais qui arrivent au Congo un petit peu perdus, qui n'ont jamais été formés avant, on ne leur a pas vraiment exactement expliqué qu'ils étaient des soldats de la paix et donc ils ouvrent le feu quand ils sont, quand ils se retrouvent au milieu de combats.
On est donc dans une situation très, très tendue, explosive, une situation de guerre. Et donc c'est cet homme, Daga Marshall, qui part à la rencontre du chef de la rébellion katangaise, Moïse Tshombe, pour un rendez-vous crucial. Il sait qu'il va survoler un pays en guerre, mais il a confiance en lui. Il pense qu'on s'attaquera pas à sa personne.
Oui, ses collaborateurs à Léopoldville, la capitale du Congo, Kinshasa aujourd'hui, lui déconseillent fortement de se rendre à ce rendez-vous nocturne, cette mission de la dernière chance pour négocier un cessez-le-feu, dans la mesure où, au-dessus des cieux dans les cieux du Katanga, rôde un chasseur solitaire, un Fuga Magistère de fabrication française, et qui s'en prend à tous les avions de l'ONU qui passent dans son collimateur.
La suite, Morin Picard, vous nous la racontez dans un instant. Extraordinaire enquête sur ce qui est sans doute un crime politique.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec Morin Picard, journaliste basé à New York, correspondant pour Le Figaro et Le Soir de Bruxelles, à propos de ce qui pourrait être l'un des plus graves crimes politiques de l'après-guerre, la mort dans un crash aérien. Andola, l'actuel Zambie, du plus prestigieux des secrétaires généraux de l'ONU, en tout cas celui qui a montré le plus de poigne face aux grandes puissances, Daga Marshall, deuxième grand diplomate onusien et suédois à mourir en fonction après le comte Bernadotte, assassiné en 48 par des extrémistes juifs. Pour Daga Marshall, ça ressemble à un crime parfait, presque parfait, Morin Picard, dont on a cru qu'il s'était déroulé sans témoin. En réalité, des témoins ont été négligés ou écartés par l'enquête officielle à l'époque.
Oui, ces témoins sont des Noirs, ce sont des charbonniers qui vivent dans la forêt et qui craignent évidemment la répression du pouvoir blanc et qui, pour la grande majorité d'entre eux, vont se taire pendant un demi-siècle, même après l'indépendance qui est obtenue en 1964, de peur de subir les conséquences de leur sincérité et de ce qu'ils ont vu, de parler de ce qu'ils ont vu.
Et vous en avez retrouvé au moins un de témoins.
Alors je retrouve un témoin blanc sud-africain qui lui rentrait d'un match de rugby dans une ville juste à côté. Il avait fait la troisième mi-temps et il rentre sur son scooter. Il travaille dans une mine à 120 km de là. Il doit prendre son service le lendemain matin très tôt. Donc il est resté sobre, ce qui apporte un peu plus de valeur à son témoignage évidemment. Et tout d'un coup, il voit un avion s'écraser devant lui dans la jungle. Il n'a rien vu de ce qui s'est passé dans les airs, mais par contre, tout d'un coup, l'avion s'écrase devant lui. Il pose son scooter, il marche une dizaine de minutes dans la savane pour atteindre le site du crash. Et la surprise, il y a une demi-douzaine de soldats blancs en uniforme qui l'aperçoivent immédiatement. Et l'un d'entre eux s'avance vers lui et le braque de son pistolet mitrailleur et lui ordonne de dégager séance tenante, ce que Wren Mastingle va faire. Il a juste le temps d'apercevoir une carcasse d'avion, un gros avion quadrimoteur, dont le fuselage porte des traces de rafales.
Ce n'est pas un témoin isolé. D'autres témoins ont vu la même chose. D'autres ont vu surtout la présence d'un avion chasseur au-dessus du DC-6 hein, pour ouvrir le feu au moment de l'atterrissage du gros appareil.
Oui, on compte au moins 6 témoins noirs. Plusieurs sont décédés aujourd'hui, mais j'en ai retrouvé un des tout derniers survivants qui aperçoivent ce qui s'est passé dans le ciel cette nuit-là. Et il y a donc un deuxième avion au-dessus de l'avion de l'ONU.
Alors, il y a beaucoup d'éléments probants dans votre enquête et dans les enquêtes successives, mais il faut dire que tout est fait pour brouiller les pistes ou effacer les preuves. Il y a même un criminologue suisse réputé, Freisulzer, de la police scientifique de Zurich, qui décide de fondre l'épave du DC-6 à 800 degrés pour isoler les composants métalliques d'éventuels projectiles en acier. C'est un désastre.
C'est un désastre absolu. Il a promis, il dit que c'est la seule solution pour essayer d'identifier la preuve d'une éventuelle interception aérienne. Et lorsqu'il se livre à cette opération de fusion des métaux composant l'avion, eh bien, on se retrouve avec des lingots énormes de plusieurs dizaines de kilos, un magma de métal qui sera finalement enterré sur l'aéroport, entre les pistes, dans un trou de 10 mètres de profondeur et qui, à ce jour, n'a jamais été déterré.
16 passagers dans l'avion, 15 morts sur le coup, un survivant dont on comprend qu'il n'a pas été soigné comme il l'aurait dû, il meurt quelques jours après. Et puis Daga Marshall, Morin Picard, qui a peut-être été achevée sur place.
C'est une des grandes énigmes de ce mystère. Un officier de renseignement norvégien parvient à voir le corps de Dag Hammarskjöld à la morgue le lendemain, dans le bourg de Ndola. Et il aperçoit, il a à peine le temps d'apercevoir un orifice suspect sur le front du secrétaire général de l'ONU.
Il y a aussi un détail incroyable, mais on ne sait pas bien s'il fait partie de la légende ou de la réalité. C'est une carte à jouer, un as de pique qu'on aurait retrouvé dans le col de chemise du cadavre de Dag Hammarskjöld.
Oui, il y a des photos assez insoutenables de ce crash et du corps de Dag Hammarskjöld, des photos qu'il n'a pas été possible de produire.
Bien sûr.
Parce que la famille de Dag Hammarskjöld refuse que de telles photos soient rendues publiques. Et on voit la carte. La carte se trouve dans le col de chemise du secrétaire général. C'est un as de pique.
Le crime n'est pas signé malgré vos investigations, les milliers d'archives épluchées, les survivants que vous avez retrouvés parfois... in extremis, parce que certains sont très vieux. Je pense notamment à cet ancien mercenaire français, Paul Ropagnol, 86 ans, vous avez réussi à retrouver. Malgré tous ces témoignages, il manque le smoking gun, comme disent les Américains, le pistolet fumant, c'est-à-dire la preuve irréfutable qu'il y a bien eu crime.
Oui, c'est un cluedo géant, si on peut se permettre la comparaison. On cherche le colonel Moutarde avec la clé anglaise dans la salle de bain. Et on a des bribes de renseignements, on a des révélations, des archives qui ont parlé, peut-être des déclassifications maladroites de certains États qui auraient sans doute dû faire attention à ce qu'ils ont déclassifié. On a un télégramme diplomatique qui est reproduit dans le livre, une réunion nocturne à Whitehall à Londres, 4 jours avant le crash, en présence du Premier ministre, Harold Macmillan, le Premier ministre anglais, et qui a cette phrase assez étonnante qui dit « Il faut trouver le moyen de sortir Hammarskjöld du jeu ».
Le sortir du jeu, effectivement, c'est troublant venant du Premier ministre. Alors, qui ? Parce qu'il faut lire vraiment ce livre et on ne va pas refaire toute l'enquête, mais vous avez une quasi-certitude sur l'instrument du crime, un Dornier 28, un petit bimoteur allemand à hélice équipé d'une mitrailleuse. Le criminel, qui pourrait être un mercenaire allemand du nom de Schaeffer, un ancien pilote de la Luftwaffe. Et pour les commanditaires probables, alors là vous parlez d'une conjuration des opportunistes, Morin Picard.
Oui, à creuser cette incroyable conjuration, on découvre que Dag Hammarskjöld s'est attiré un nombre incalculable d'ennemis, le gouvernement français, le gouvernement anglais, les intérêts miniers anglo-belges qui détiennent l'essentiel du capital des grandes mines de cette région qu'on appelle la Copper Belt, la ceinture de cuivre à l'époque, qui détient ces fameuses richesses minières incroyables. Et il y a des mercenaires qui sont tous des anciens soldats professionnels français, anglais, sud-africains. Beaucoup se sont connus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, beaucoup ont fait Suez, ou l'Indochine, et l'Algérie. L'Algérie qui est aussi un problème avec Dag Hammarskjöld, puisque c'est lui qui a voulu saisir le Conseil de sécurité sur les événements d'Algérie.
Si vous vous êtes intéressé à cette affaire, Morin Picard, c'est que ça bouge du côté de l'ONU. Ça bouge depuis 2011, depuis un premier livre enquête. Et un juge tanzanien, Othman, doit rendre ses conclusions définitives dans les prochaines semaines.
Oui, le rapport final doit être remis sur le bureau du secrétaire général de l'ONU actuel, le portugais Antonio Guterres. Ce rapport final sera probablement rendu public en septembre, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. On ne sait pas ce qu'il contiendra et on s'inquiète un petit peu. L'ONU a-t-elle trouvé de nouveaux éléments ? C'est peu probable, pour une bonne raison. Les grandes puissances, incriminées de près ou de loin, refusent toujours obstinément de déclassifier leurs archives confidentielles.
Alors, quelles grandes puissances ?
La France, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, la Belgique qui a partiellement...
La Belgique l'a fait en partie, oui.
La France a accepté de coopérer tardivement, mais les archives confidentielles, celles des services de renseignement, qu'on appelait le SDEC à l'époque, sont restées jusqu'à très récemment totalement inaccessibles pour cette enquête.
Mais vous pensez que c'est principalement à Londres, en Angleterre, qu'on peut trouver la clé du mystère.
C'est ce que dit le juge Othman. Il a menacé de manière diplomatique Londres et Pretoria de dénoncer une manipulation, un cover-up en anglais, si au moment de juste avant la remise du rapport final, aucun progrès n'a été constaté dans cette très mauvaise coopération.
Et c'est très embarrassant pour le secrétaire général de l'ONU actuel, Guterres.
C'est un gros problème, puisqu'on parle d'États membres permanents du Conseil de sécurité. En l'état actuel des choses, avec les conflits auxquels l'ONU est confrontée, le Yémen, la Syrie, un secrétaire général des Nations Unies, aussi courageux soit-il, puisqu'on dit que Guterres est un homme très courageux, peut-il se permettre de s'aliéner certains des 5 États membres permanents du
Même
Conseil ?
Même pour un crime vieux de 58 ans.
Oui, c'est ce que me disait le juge sud-africain Richard Goldstone de la Cour pénale internationale, un ancien de la Cour pénale internationale, qui me disait que l'embarras en politique est un puissant levier et cet embarras peut encore avoir des effets 60 ans après.
Plus d'un demi-siècle après. Merci beaucoup, Morin Picard, livre haletant et enquête époustouflante. Ils ont tué Monsieur H, à lire comme un polar, ça vient de paraître au Seuil. Merci encore.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Demain, lundi, Patrick et Isabelle Balkany sont convoqués au tribunal de Paris. Ils sont poursuivis pour fraude fiscale et soupçonnés notamment d'avoir dissimulé à l'administration un patrimoine d'au moins 13 millions d'euros. Voilà 35 ans que le maire de Levallois-Perret traverse les affaires, qu'il fréquente les juges et slalome entre les dossiers judiciaires et qu'il s'en sort bien, d'où le titre de ce livre qui nous aide à comprendre le phénomène ou le mystère Balkany l'impuni. Bonjour Jean-Charles Degnaud.
Bonjour.
Journaliste et documentariste, les regards se sont tournés vers vous quand on a appris il y a 10 jours qu'Isabelle Balkany avait tenté de mettre fin à ses jours en dénonçant à la fois une instruction à charge et des journalistes qui se repaissent de leur détestation des autres.
Pas du tout, du tout. Moi, j'ai essayé de faire un travail sérieux en reprenant des éléments qui étaient épars dans d'autres livres, en enquêtant aussi de mon côté. Et j'ai beaucoup travaillé à l'époque, parce que j'avais réalisé en 2014 un film sur les Hauts-de-Seine. J'ai beaucoup travaillé avec Didier Schuller, que j'avais rencontré à cette occasion. J'ai enregistré, j'ai fait des longues interviews de lui. Je ne les avais pas exploitées. Et lorsque, au mois de novembre, j'ai vu Isabelle Balkany qui s'affichait avec les gilets jaunes, je me suis dit là, c'est trop.
Oui, vous prenez soin de rappeler la présomption d'innocence des Balkany, mais enfin, il y a l'indignation, vous ne le cachez pas, contre ceux que vous appelez les Bonnie and Clyde de la corruption politique. Parce que vous trouvez que là, l'affichage avec les gilets jaunes, c'est trop.
C'était trop. Alors j'ai rassemblé tout ce que j'avais et puis j'ai commencé à écrire.
Ce que vous rappelez d'abord, Jean-Charles Degnaud, c'est que les Balkany, aussi bien Isabelle que Patrick, n'ont pas attendu d'être élus pour être riches.
Oui, ils sont riches. C'est un couple plaqué or, comme j'ai écrit. Ils sont de familles très aisées, ils ont de l'argent. Ils se lancent en politique un peu par hasard. En 83,
Il se
Charles
lance.
Pasqua le lance à Levallois. Et eux, les bourgeois de Neuilly, ils s'installent à Levallois et là, ils font merveille. Ils font merveille. Et ils dépensent leur argent, leur propre argent.
Oui, alors voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour leur première campagne, donc celle de 83. Et ensuite, ils se refont, quoi.
Ils se refont tout doucement. Il faut savoir que Levallois, c'est une petite commune, 242 hectares, et il y a beaucoup de friches industrielles. Il y avait beaucoup d'ateliers, il y avait beaucoup d'usines, notamment Citroën. C'est des friches, et ça, c'est l'idéal pour construire. Et Balkany va se lancer dans l'immobilier, quoi.
Et puis, si on ne connaît pas le détail de leurs arrangements, on en connaît le résultat, et c'est par là qu'ils sont tombés, en quelque sorte. C'est la grande vie. Ce que vous appelez une vie de nabab.
C'est une vie de nabab. Ils vivent sur un pied assez incroyable. Ils font des fêtes somptueuses. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, même Charles Pasqua sera persuadé presque toute sa vie que l'argent des Balkany, c'est leur argent personnel. Tout le monde était persuadé que c'était leur argent. Parce que des gens qui se lancent en politique n'ont pas beaucoup de moyens au départ. Eux, ils ont fait l'inverse. Ils avaient beaucoup, beaucoup de moyens au départ.
En tout cas, ils tombent fiscalement avec leurs histoires de propriétés cachées, aussi bien aux Antilles qu'au Maroc.
Ce qui paraît curieux, c'est que pour eux, c'est une histoire, simple histoire de fraude fiscale. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont écrit à leurs administrés, puisque Balkany veut se représenter en 2020.
Oui.
Mais si c'est une histoire de fraude fiscale, pourquoi avoir pendant tant d'années, monté des millefeuilles de sociétés, de fiduciaires, de sociétés écrans, de comptes à Singapour. Mais la fraude fiscale, c'est grave. Mais c'est beaucoup moins grave que du blanchiment d'argent. Et donc, pourquoi n'ont-ils pas avoué? Il y a aussi les prête-noms. Il y a Aubry, Jean-Pierre Aubry, qui est le prête-nom.
Et qui comparait demain à leur côté.
Qui comparait à leur côté et qui est resté muet. Lui, il est d'une fidélité irréprochable.
Alors, je le disais tout à l'heure, jusqu'à présent, ils s'en sont bien sortis. Bon, le procès commence demain, on verra ce qu'il en sort. Mais les raisons de cette impunité, vous les avez éclaircies, Jean-Charles Deniaux ?
Bah oui, en grande partie, puisqu'ils ont été protégés par Chirac. Parce que Balkany participait à tous ces transferts d'argent depuis la Suisse, et tout, même si ce n'était pas lui, il était au courant de tout. Chirac sait que Balkany sait, donc il le protège. Ensuite, il a comme ministre de l'Intérieur Sarkozy, grand ami, donc il est protégé. Après, Sarkozy président, il faut que le président Hollande soit élu en 2012 pour que ça change.
C'est en 2012 que la plupart des enquêtes qui aboutissent aujourd'hui sont lancées, effectivement.
Alors, ce qui est curieux aussi, c'est que si Patrick Balkany n'avait pas trahi Schuller, c'est-à-dire que Schuller, il y avait un accord tacite entre eux, Schuller se présente à Clichy et Balkany ne met personne contre lui. Et Schuller, jusque-là, n'avait rien dit. Il avait écrit un livre, Je reviens, dans lequel il disait rien. Schuller est persuadé qu'il va se présenter à Clichy, qu'il va gagner parce qu'il a la politique dans le sang. 2013, en mars, il lui met son adjoint Rémi Museau dans les pattes. Son suppléant à Levallois, il le met dans les pattes de Schuller. Et là, Schuller, qui a été un bon petit soldat, qui n'a rien dit pendant des années, se dit là, c'est trop, quoi. Il rencontre le juge Van Ruymbeek et Le Loir à l'époque, et après ce sera Patricia Simon. Il rencontre les juges et il raconte. Et il est aidé par ces deux journalistes, Davey et Lhomme, qui vont étudier le dossier chez lui et qui trouvent des documents.
Demain, donc, début d'un procès pour fraude fiscale et blanchiment devant le tribunal correctionnel de Paris. 6 semaines de procès, un jugement sans doute attendu plusieurs mois plus tard. Mais tout de même, vous l'avez dit, Isabelle et Patrick Balkany se préparent pour les municipales de l'an prochain.
Bien sûr. Ils ont d'abord envoyé à chaque élu de leur majorité une lettre leur demandant de faire allégeance. Ils s'engagent à les suivre et à ne pas les trahir. Il faut signer. Et dans le bulletin municipal, il y a une longue lettre disant que qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est de la simple fraude fiscale. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de détournement d'argent public.
Donc ça peut continuer. Nous verrons. Balkany, l'impuni, secret, mensonge et trahison. Ça vient de paraître aux éditions Nouveau Monde. Merci beaucoup Jean-Charles Deniaux.
Merci.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Et demain, c'est Cannes qui recommence. Le festival débute mardi. Il reste malgré tout le plus grand événement mondial de cinéma. Je vous présente un producteur, distributeur, exploitant de salles qui va à Cannes défendre 7 films en compétition. Bonjour Nathanaël Karmitz.
Bonjour.
Directeur général de MK2. Combien de festivals derrière vous ?
25.
25
cette année, oui.
Déjà, à quoi ça sert Cannes ?
C'est la plus grande vitrine du cinéma mondial. C'est la plus belle exposition pour les films. C'est la compétition la plus prisée, c'est notre Champions League à nous.
Oui, mais compétition prisée pour, on a envie de dire, pour un cercle restreint de cinéastes. On a l'impression d'un club qui fonctionne par cooptation, puisque par exemple cette année, 5 films en compétition sont signés par des réalisateurs qui ont déjà eu 1 ou 2 Palmes d'Or, et même 6 avec Xavier Dolan, que vous défendez, qui a déjà eu 1 prix du jury et 1 Grand Prix.
C'est les très bons cinéastes restent des très bons cinéastes, mais malgré tout, on peut constater cette année que le festival se renouvelle. On représente par exemple Mati Diop, le premier film africain réalisé par une femme. Il y a plusieurs premiers films dans la sélection, dont un autre film français. Donc c'est un subtil mélange de talents confirmé ou nouveau. Et le cinéma à Cannes représente le cinéma, dans ce, le cinéma mondial dans sa globalité.
Mais vous comprenez qu'on puisse dire, en voyant la sélection, c'est toujours les mêmes ?
En même temps, on dit ça un peu tous les ans. Et par exemple, l'année dernière, c'était une édition extrêmement renouvelée. On disait déjà ça. Donc, on dit toujours beaucoup de choses sur le cinéma qu'on répète d'année en année, comme le cinéma est en crise, etc. Mais force est de constater que cette année est une année particulièrement vivace en termes de talent.
Xavier Dolan, Mathias et Maxime, 30 ans.
Déjà
sixième festival de Cannes, ouais. Si j'ai bien compté, parce qu'il était aussi dans des sélections parallèles.
Oui, c'est son dixième anniversaire. Il a commencé il y a 10 ans. Il a fêté ses 30 ans cette année. C'est son 8e film et une nouvelle présence à Cannes avec un nouveau film encore très différent qui risque de surprendre beaucoup.
Avec Xavier Dolan comme acteur et avec Xavier Dolan, on le voit dans le film. Vous défendez donc aussi 3 films de femmes.
Oui.
Vous avez cité Atlantique de Mati Diop. Ils sont à Cannes ces films parce que ce sont de bons films ou parce qu'il faut féminiser la sélection et qu'Agnès Varda est sur l'affiche ?
Je ne suis pas forcément le plus objectif, mais je pense que c'est des films assez extraordinaires. Force est de constater qu'il y a une production avec de plus en plus de femmes qui se fait partout dans le monde. Et ces 3 films, chacun avec une très forte singularité, sont des films extrêmement aboutis, chacun dans leur genre. Ils sont très différents. Et néanmoins, chacun a une patte très particulière, mais c'est le public et le jury qui en décidera.
La France demeure le premier marché européen du cinéma, 200 millions d'entrées l'an dernier, un petit peu plus, c'est 2 fois plus qu'en Allemagne ou qu'en Espagne, mais ça baisse. 213 millions d'entrées en 2016, 209 en 2017, 201 millions l'an dernier. C'est pas un déclin qui s'amorce, Nathanaël Karmitz ?
Le début de déclin, en même temps, Avengers vient de nous prouver l'exact ouais. opposé il y a 15 jours. Ça vient de dépasser Avatar, c'est le plus grand succès au box-office mondial. Et ce que ça démontre, c'est que le cinéma est dépendant des auteurs, des talents et des films. Quand il y a des bons films, quand il y a des talents, quand il y a une nouveauté, quand c'est en adéquation avec le public est là. Ce qu'on peut constater à l'inverse, c'est que le cinéma en France se maintient au-dessus des 200 millions d'entrées, ce qui est colossal, ce qui est enfin des marchés les plus intéressants et les plus vivaces au monde. Et ces entrées extraordinaires, c'est généralement lié à quelques films et quelques grands succès. Intouchables, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Ces grands films, ces grands moments populaires qui rassemblent une grande partie du public.
Alors vous allez me dire, rien ne remplace le plaisir d'une projection en salle sur grand écran, c'est vrai, mais avec Netflix et ses créations originales, le petit écran trouve de plus en plus d'attrait pour un producteur, distributeur comme vous. Netflix, c'est un gros mot ?
Non, absolument pas, mais son premier concurrent, c'est la télévision ou c'est YouTube. Le cinéma est un autre écran, c'est 2 métiers qui sont très différents. Il y en a un qui est vous laisser le nez coller à un écran et l'autre qui est une activité qui est sortir de chez vous, payer une place, vivre une émotion collective. Donc ça n'est pas la même chose.
C'est pas ce que semblent considérer de grands cinéastes, y compris, dernier exemple, Scorsese, qui vient de tourner The Irishman avec De Niro et Pacino. On parle d'un budget de 175 millions de dollars. Il faut boycotter Scorsese maintenant
Absolument pas, mais il y a d'autres grands cinéastes comme Christopher Nolan ou Steven Spielberg qui semblent aussi considérer l'exact opposé et que le cinéma continue à se vivre en salle de cinéma. Je pense que vous avez parlé du budget, je pense que c'est une des bonnes raisons pour lesquelles Martin Scorsese a voulu réaliser son film avec Netflix. Et je pense que la décision de passer en salle n'est pas encore complètement tranchée.
Non, ça pourrait passer en salle aux États-Unis. En Europe, ce n'est pas tranché. Si on vous le propose, vous le passerez, le Scorsese Netflix ?
Alors, il y a des règles. Le fait que ça soit Netflix ne me pose absolument aucun problème. De la même manière que TF1 produit des films ou France Télévisions également. Le problème, c'est que Netflix essaye de contraindre l'ensemble d'un secteur à ses règles. Il veut que ça passe d'abord sur Netflix et éventuellement, peut-être en salle de cinéma, et donc exclut les autres moyens de diffusion.
Et ça vous pose un problème, etc.
Oui, ça pose un problème, parce qu'aujourd'hui, le cinéma dans sa globalité est un équilibre fragile, où les fenêtres de diffusion ne sont pas liées par la volonté d'exclure les uns ou les autres, mais par les contributions des uns ou des autres à l'écosystème du cinéma et à sa production. Et la salle reste le premier lieu de diffusion, aujourd'hui, d'un film de cinéma, et ses premiers contributeurs aussi en termes de recettes.
En fait, Netflix est en train de devenir un producteur comme les autres. Ce que vous lui reprochez, c'est de vouloir changer les règles.
c'est un producteur comme les autres, mais c'est surtout une chaîne de télévision comme les autres, mondialisée, avec un super service. Mais je suis abonné à Netflix, je suis aussi abonné à MyCanal, je suis abonné à OCS. Ça ne me pose aucun problème. Ils font des très bonnes productions, ils en font aussi des très mauvaises. On pourrait aussi constater qu'avec 14 milliards de dollars de budget de production, ce n'est pas forcément génial. Il y a une grande concurrence qui arrive. Par exemple, Disney+, l'année prochaine, je pense qu'ils ne se passeront pas de la salle de cinéma pour le prochain Avengers.
Donc le Festival de Cannes a raison de refuser les productions Netflix.
Je pense que le Festival a totalement raison, car encore une fois, il y a des règles du jeu qui sont les mêmes pour tout le monde. Un film qui passe au Festival de Cannes est fait pour la salle de cinéma. Cannes, c'est avant tout la salle de cinéma. Netflix a totalement le droit de venir au Festival de Cannes, mais il y a cette règle qui est que c'est avant tout des films qui doivent passer au cinéma.
Deux questions pour finir aux producteurs exploitants que vous êtes pour MK2, Nathanaël Karmitz. D'abord, le projet de film qui, pour les mois à venir, vous excite, vous dit, vous donne les raisons et vous donne envie de continuer de faire ce métier qui vous motive particulièrement.
Déjà, les prochains mois vont être consacrés aux films qui sont présents au Festival de Cannes.
Oui.
C'est beaucoup de jeunes talents qu'il va falloir accompagner. Après, et vous l'avez rappelé, j'ai une fidélité immense avec Xavier Dolan, puisqu'on l'accompagne depuis le début. Donc, j'attends avec impatience qu'on se mette au travail sur le prochain.
Ah, il est très prolifique, Xavier Dolan. Là, il est au rythme de un par an, pratiquement.
Pratiquement.
D'accord.
Donc mais toujours avec des nouvelles propositions, des grandes différences de film en film. C'est un auteur qui se renouvelle, oui, même en tournant beaucoup.
Donc il a déjà l'idée de son prochain film, forcément.
Il a toujours l'idée de son prochain film, mais ça change régulièrement.
Bon, et comme exploitant le chantier, le projet de salle ou de transformation qui vous motive ou qui vous excite ?
Alors un projet assez atypique, qui est Place de la Nation à Paris, où on est en construction d'un hôtel cinéma qui ouvrira en janvier 2020. Sur une manière d'aller voir des films et de programmer du cinéma assez différentes et nouvelles.
C'est-à-dire une grande salle et des chambres d'hôtel au-dessus ?
Six salles de cinéma, du cinéma dans les salles. La chambre de base aura un écran de 3 mètres et une programmation spéciale, un cinéma en plein air sur le toit et plein de belles surprises.
Merci beaucoup Nathanaël Karmitz, directeur général de MK2, d'être venu ce matin au micro d'Europe 1.
Merci.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Le dimanche de 9h à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé demain.
Pour les élections européennes, dans 2 semaines, il y a les combats politiques nationaux. Et puis, il y a des sujets communs et des envies partagées qui peuvent dépasser les frontières et les préférences partisanes et rassembler une large majorité d'Européens. C'est le sens de l'initiative dont on va parler à présent. Bonjour Axel Daucher.
Bonjour.
Vous dirigez mec.org, une plateforme française de débat, et en vue des élections européennes, vous avez lancé, il y a déjà plusieurs mois, une vaste consultation citoyenne sur tout le continent.
Oui, sur les 27 pays, on n'a pas consulté l'Angleterre.
Ah oui, bah oui, parce qu'il devait sortir.
Exactement.
Même s'il pourrait participer dans 2 semaines. Combien de personnes consultées ?
Alors, en fait, c'est une initiative qu'on a montée avec Civico Europa et on a posé une question très simple, ouverte. Comment réinventer l'Europe à 38 millions d'Européens dans tous les pays ?
Question donc très ouverte. Ouais. Et il y a un peu plus de 2 millions qui ont répondu directement.
Hein. Exactement.
Ouais, ce qui est beaucoup. Donc, ces propositions, on va les détailler dans un instant, elles ont été soumises au vote. Enfin, vous avez recueilli des réponses éparses et ensuite, il y a eu une sorte de vote pour savoir quelles étaient les plus populaires.
Alors en fait, les deux critères qu'on a regardés, c'est à la fois celle qui générait le plus d'engagement et puis surtout celle qui générait le plus de consensus. On a eu plein de propositions qui étaient très clivantes, mais le sujet, c'était d'aller chercher en fait l'estomac commun de tous les Européens, en gros les 10 sujets sur lesquels tout le monde est d'accord et sur lesquels on peut avancer ensemble.
C'est-à-dire c'est des mesures à la fois concernantes et des mesures qui conviennent bien à l'échelle européenne.
Exactement, absolument tout le monde à l'échelle européenne dans les 27 pays.
Alors le plus frappant quand on parcourt la liste rapidement, c'est de voir la prédominance des mesures d'inspiration écologique.
Oui, ça a été vraiment la plus grosse surprise, puisque là, on le voit au niveau des 10 dernières, mais au niveau des 27 pays, dans chaque pays, l'écologie sort comme la majeure, c'est-à-dire les mesures sur l'environnement, qui peuvent prendre différentes formes, sont vraiment la part commune sur laquelle non seulement les Européens sont d'accord, mais pensent que l'Europe est le bon niveau aussi pour les adresser.
C'est ça qui est important. Proposition numéro 1, il faut créer un programme de recyclage. À l'échelle européenne, les matières premières doivent être réutilisées plutôt que détruites. Alors ça, c'est important.
Alors ça on est en plein dans l'actualité. Là, c'est une proposition qui vient de Marie, qui est une retraitée néerlandaise et qui était la première, la plus gros plébiscite. Et c'est sûr que l'Europe a déjà pris des mesures dans ce sens-là, mais là, il y a une sorte de boulevard sur lequel on peut avancer.
Alors, je ne vais pas les donner dans l'ordre, mais je vais regrouper quelques propositions écolo. Il faut protéger les forêts, c'est la numéro 3. Protéger les forêts au moyen d'une gestion efficace et recréer des forêts de feuillus. Pour un arbre coupé, 5 arbres sont plantés. Voilà.
Alors, beaucoup de propositions sur la protection de la nature, mais c'est effectivement celle sur les forêts qui a émergé.
Ouais. Et puis, coordonner les limitations de produits chimiques, notamment dans l'industrie alimentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un peu le cas déjà, non? Qu'il y ait une législation commune pour ce qui est des additifs alimentaires, non?
Oui, alors celle-là est très intéressante parce que, en fait, c'est l'outsider. L'alimentation, au général, était assez peu présente. Et puis, une proposition a émergé, portée sur le terme de l'alimentation, principalement par les Français et les Italiens. Donc, il y a une sorte de surpondération tellement forte de ces deux pays qu'elle est rentrée dans le top 10 final.
Encourager les projets d'énergie renouvelable dans les villes, ça c'est la proposition numéro 8.
Oui, Birutė, qui est une consultante en Lituanie, leurs porteurs sont aussi révélateurs, je dirais, que leur sujet. Et là, vraiment, le point particulier, c'est dans les villes. L'énergie renouvelable est sortie partout, mais celui dans les villes est vraiment devenu quelque chose d'important.
Deuxième catégorie de mesures, de propositions plébiscitées par les citoyens européens, les mesures fiscales. Hein, de justice fiscale, on peut le dire comme ça, pour que notamment les multinationales payent leurs impôts. Il faut cesser les niches fiscales accordées aux multinationales. Les impôts doivent être payés dans les pays où sont générés les bénéfices. Propose Jules, proposition numéro 4, donc très...
Jules, étudiant belge, effectivement, celle-ci a émergé. Alors sur la fiscalité, tout ce qui est justice fiscale émerge assez naturellement dans nos consultations. Mais il y avait des solutions, il y avait des propositions plus sur les GAFA, il y avait des propositions plus sur l'évasion fiscale. Et c'est vraiment celle de la taxe sur les multinationales qui a émergé le plus.
Interdire aux criminels, notamment aux évadés fiscaux, de travailler dans le secteur public ou de se présenter à des élections en Europe. Là aussi, ça participe de là. En quelque sorte, une forme de justice fiscale.
Alors, probité des élus partout. Sur la fiscalité, j'aurais remarqué que les pays, c'est plutôt un sujet d'Europe de l'Ouest. Quand on va sur l'Europe de l'Est, c'est moins un sujet. Tout ce qui concerne la fiscalité est très porté par l'Europe du Nord et l'Europe de l'Ouest.
Alors, dernière phase, Axel Dauchet, avec toutes ces propositions, vous êtes allé voir les partis politiques dans tous les pays d'Europe pour leur soumettre ces propositions. Est-ce qu'elles font aussi consensus dans les partis politiques qui se présentent aux élections que chez les citoyens européens?
Alors, on a été voir plus de 200 partis politiques.
200 partis, oui, c'est beaucoup.
Il y en a beaucoup, si on cumule ceux des 27 pays. Et sur tous ces pays, on s'aperçoit qu'il y a quatre thèmes qui sont vraiment où les politiques sont en symbiose et au rendez-vous par rapport aux attentes citoyennes. On retrouve l'environnement, l'éducation, la transparence des institutions et le droit du travail. En revanche, il y a des thèmes qui créent un clivage et une déconnexion partielle. Les sujets où il y a une déconnexion massive, c'est sur la probité des élus, c'est-à-dire que globalement les partis sont très très mal à l'aise avec ce système-là et unanimement on est moins en soutien de la proposition. En revanche, sur des sujets comme la fiscalité, on retrouve le clivage géographique qu'on évoquait, c'est-à-dire que les pays de l'Est sont les partis politiques des pays de l'Est sont très en soutien des mesures fiscales, plus que le reste de l'Europe, où justement il y a une frilosité par rapport à ce sujet-là. Donc en fait, c'est très intéressant parce qu'on commence à mesurer que finalement l'enjeu des élections, c'est d'être sur des sujets qui touchent les gens. Ce qu'on a dit aux partis politiques, on leur a parlé qu'il fallait être d'accord avec les citoyens. On leur a dit, si tout le monde est d'accord là-dessus, au minimum, vous devez clarifier votre position, vous devez avoir des mesures concrètes. Et ça, ça a été vraiment suivi, puisque les 200 partis au niveau européen, ils ont joué le jeu, ils ont vraiment proposé des mesures concrètes, et ils pensent effectivement que la politique est en train de changer.
Et donc tout ça, vous allez le rendre public après-demain, mardi? C'est-à-dire que vous allez publier toutes les réponses que vous ont données les partis politiques.
Alors, on va aller au-delà de ça, parce qu'on va publier non seulement les réponses des partis politiques, mais on va aussi construire un petit outil qui permet de déterminer de qui on est le plus proche pour voter en fonction des réponses concrètes sur ces 10 sujets. On est vraiment dans une logique de hacker l'élection en recentrant le débat sur ce qui nous rassemble, plutôt que ce qui nous divise. Et puis, on va faire quelque chose qui n'a jamais été fait. On va aussi lancer une campagne gigantesque, en particulier dans le métro parisien, mais sinon dans toute l'Europe, qui va toucher 50 millions de personnes pour les engager non seulement à aller voter, mais à se déterminer en fonction de ce qui les intéresse vraiment.
Axel de chez Merci, on va pouvoir lire tout ça sur le site make.org ou WeEuropeans plutôt.
WeEuropeans.eu, mais aussi sinon sur make.org.
Merci beaucoup, Axel de chez.